Ce balado vous est présenté par interbible.org, le portail biblique francophone. Bienvenue au récit insolite de la Bible. Vous êtes en compagnie de Sébastien Daune, bibliste, ensemble maintenant depuis 2 ans pour explorer les récits à la fois bizarres et intéressants de la Bible. On tente toujours de mieux comprendre le texte dans lequel, dans le contexte dans lequel a été écrit ce récit-là, puis on essaye de réfléchir pour voir comment ce texte peut être parole de Dieu pour nous aujourd'hui, même si apparemment il semble insolite. Une question pour vous. Connaissez-vous le premier roi d'Israël? Si vous avez répondu David, vous êtes dans l'erreur. David va succéder à Saül, qui est le premier roi, et ce qui est intéressant, c'est qu'il va avoir une fin de vie assez tragique. Et c'est sur ça qu'on va poser l'attention ce soir. On va voir qu'il y a 2 textes qui décrivent sa mort de façon très différente. Dans un cas, il va se suicider, et dans l'autre cas, il va se faire tuer par quelqu'un. Qu'en est-il vraiment? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Lors de la dernière émission, nous avons abordé le récit du veau d'or. On a vu qu'il y avait 2 traditions qui ont été mises ensemble par un rédacteur. Dans une de ces traditions-là, Dieu pardonnait au peuple, alors que dans l'autre, c'était totalement l'opposé. Il y avait 3000 personnes qui vont mourir suite à l'offense commise envers Dieu. C'est une violence qui est dans la Bible qui fait toujours réagir. Il y a plus d'une personne qui a pris la peine de m'écrire sur ce sujet et j'ai retenu la question d'Hélène qui dit « Bonjour Monsieur Daune, j'aime bien votre émission, mais je me demande pourquoi la Bible transmet des récits porteurs d'une telle violence. Comment est-ce que ce texte peut être parole de Dieu? » Excellente question, Hélène. Honnêtement, moi, je pense que la Bible porte des récits violents tout simplement parce que le monde dans lequel on vit est tout aussi marqué par la violence. On a juste à regarder les journaux, la télévision, Internet. L'actualité est pleine de scènes de violence qui se répètent à tous les jours. L'être humain, il est fait comme ça. Il y a toutes sortes d'émotions, de colère, de vengeance, et il va avoir recours à la violence pour toutes sortes de raisons. Si la Bible parle de notre monde, si elle est vraiment incarnée, bien, c'est normal qu'à quelque part, elle ait quelque chose à dire à propos de la violence. Mais ce qui nous étonne, c'est que lorsqu'on lit la Bible, on voit que la violence n'est pas toujours décriée. C'est pas toujours dit qu'il ne faut pas frapper son voisin. Oui, il y a toutes sortes de belles paroles qui disent d'aimer son prochain, même d'aimer son ennemi, mais parfois, elle va même jusqu'à justifier la violence. Par exemple, lorsqu'il y a un peuple ennemi qui attaque Israël dans l'Ancien Testament, on va dire que, bon, ben Israël va se défendre ou va même attaquer, puis ça semble quelque chose de bien pour celui qui rédige le texte. Mais ce qui nous choque encore plus, c'est dans ce récit du veau d'or, par exemple, Moïse, au nom de Dieu, va faire assassiner ceux qui se sont prosternés devant l'idole. Comment est-ce que Dieu peut être d'accord avec une telle violence? C'est quand même une grande question. Bon, une partie de la réponse, moi je la mettrais en deux parties. D'une part, la société de l'époque était plus violente que la nôtre. Il n'y avait pas tout le système de justice qu'on a aujourd'hui, il n'y avait pas tout le système politique. Alors donc, la société était plus violente, on prenait les choses dans nos mains puis on se faisait justice les uns les autres. D'autre part, la foi au Dieu unique, et à peu près ce qui est le plus important pour les rédacteurs de la Bible. Et le récit du veau d'or essaie de décourager les lecteurs d'aller vers d'autres dieux en montrant justement qu'est-ce qui peut arriver si on se met à se prosterner vers d'autres idoles. On voit c'est quoi la peine qui est associée à ça et bon, on devrait être découragé de faire ça. Par ailleurs, on a aussi vu la dernière fois qu'il y avait une tradition de pardon où Dieu pardonne son peuple et qu'il n'y a pas de ces 3000 exécutions-là. Donc, à quelque part, moi, je pense que dans tout ça, il faut conclure que l'image de Dieu que nous donne la Bible est beaucoup plus complexe qu'on le pense. Oui, il est à la fois un Dieu d'amour, de pardon, mais c'est aussi un Dieu qui va faire régner la justice et qui ne va pas se laisser piler dessus. À tout le moins, le récit du veau d'or a le mérite de nous aider à remettre en question notre propre image de Dieu. En passant, un livre pour aller plus loin sur cette question-là, c'est « Les scandales de la Bible » de Jean-Pierre Prévost. « Les scandales de la Bible », c'est chez Bayard Novalis, 2006. Un excellent livre qui montre justement les différents endroits dans la Bible où il y a de la violence et qui tente de donner quelques pistes pour comprendre cette violence qui se trouve dans la Bible. Bon, j'espère que ça vous a donné justement des pistes de réflexion. Si vous voulez faire comme Hélène et nous poser des questions, nous contacter pour donner vos commentaires aussi, le mieux c'est de le faire par courriel. C'est auditoire@radiovm.com, auditoire@radiovm.com. On va poursuivre l'émission avec un récit qui traite aussi de violence, la mort du roi Saül. Suicide ou meurtre? On verra ça après un peu de musique. C'est le quintet vocal de la famille La Ferrière d'Onde qui va nous chanter Ubi Caritas, version du Rufflé. Ici Sébastien Daune, vous écoutez les récits insolites de la Bible. Le premier roi choisi par Dieu pour régner sur son peuple était Saül. On revient à cette époque-là, les Hébreux étaient presque constamment en guerre avec les Philistins. Et c'est justement dans l'une de ces batailles que Saül va trouver sa mort. Le décès est raconté dans deux passages distincts de la Bible, dans deux versions qui sont tout aussi insolites l'une que l'autre. On va lire les deux, on va essayer de voir les différences entre les deux versions. La première se trouve à la fin du premier livre de Samuel, alors vous pouvez le trouver, ça se retrouve dans le premier livre de Samuel, le chapitre 31, les versets 1 à 6. Je vous lis ça. Or, les Philistins combattaient contre Israël. Les hommes d'Israël s'enfuirent devant les Philistins et tombèrent frappés à mort sur le mont Gilboa. Les Philistins se mirent à talonner Saül et ses fils. Ils abattirent Jonathan, Avinadav et Malchishua, les fils de Saül. Le poids du combat se porta vers Saül. Les tireurs d'arc le découvrirent. À la vue des tireurs, il eut un frisson d'épouvante. Saül dit à son écuyer, « Dégaine ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me transpercer et se jouent de moi. » Mais son écuyer refusa, car il avait très peur. Alors Saül prit l'épée et se jeta sur elle. Son écuyer, voyant que Saül était mort, se jeta lui aussi sur son épée et mourut avec lui. Saül, ses trois fils, son écuyer, ainsi que tous ses hommes, moururent ensemble ce jour-là. Premier livre de Samuel, chapitre 31, les versets 1 à 6. On voit dans cette première version, Saül sait qu'il va mourir, mais il ne veut pas être tué par un ennemi, alors il se suicide. C'est son écuyer qui refuse de l'aider et va s'enlever la vie avec lui après avoir refusé. Les Philistins vont finir par trouver le corps de Saül. Ils vont lui couper la tête, ça c'est la suite du récit, et ils vont l'expédier partout dans le pays pour annoncer la mort du roi d'Israël. Enfin, ils vont attacher le corps du roi Saül au rempart de l'une de leurs villes pour montrer la conquête qu'ils ont réussie. En fait, Saül savait qu'il allait mourir avant même que la bataille ne commence. Si on lit quelques chapitres précédant ce récit-là, on sait qu'il a consulté une voyante qui avait conjuré l'esprit de Samuel, un prophète décédé, et l'esprit de Samuel avait annoncé que le roi allait mourir ainsi que ses fils lors de la prochaine bataille. Ça, c'était au chapitre 28. Normalement, on pense que le suicide est décrit comme quelque chose de négatif. Mais curieusement, dans ce récit-là, le suicide de Saül semble pas être décrit de façon négative. C'est neutre, même peut-être un peu positif, parce qu'on voit que c'est pas l'ennemi qui va réussir de le tuer, lui-même va se suicider. Ce geste a comme but de pas tomber vivant dans des bains ennemis. La Bible, d'ailleurs, va mentionner 4 autres personnages qui vont se suicider. Est-ce que vous êtes capable d'en nommer au moins un? Il y en a un qui est assez évident, c'est Judas. Judas qui, bien entendu, lui, son geste va être compris de façon très négative, hein, parce que c'est suite à une trahison de Jésus. Alors donc, c'est un contexte très différent du suicide de Saül. Mais il y a aussi 3 autres personnes dans l'Ancien Testament, je vous les nomme rapidement, Abimélec, Achitophel et Zimri. 3 noms assez bizarres, mais 3 personnes qui se suicident aussi dans l'Ancien Testament. Vous irez regarder ça si ça vous intéresse. On va passer à la deuxième tradition sur la mort de Saül, qu'on retrouve tout de suite après, c'est le début du second livre de Samuel. Essayez de remarquer les différences entre les deux versions, on va en parler tout à l'heure. Si vous avez votre Bible avec vous, c'est deuxième livre de Samuel, le premier chapitre, les versets 2 à 16. Le troisième jour, un homme arriva du camp, d'auprès de Saül. Il avait les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Or, en arrivant auprès de David, il se jeta face contre terre et se prosterna. David lui dit « D'où viens-tu ? » Il lui dit, « Je me suis échappé du camp d'Israël. » David lui dit, « Comment la chose s'est passée? Raconte-moi. » Il dit, « Le peuple a été mis en déroute, et puis il est tombé beaucoup de morts dans le peuple, et puis Saül et son fils Jonathan sont morts. » David dit à son jeune informateur, « Comment sais-tu que Saül est mort, ainsi que son fils Jonathan? » Le jeune homme lui dit, « Je me trouvais par hasard sur le mont Gilboa. Il avait Saül, appuyé sur sa lance, il y avait des chars, des cavaliers qui le serraient de près. Il s'est retourné et m'a vu. Il m'a appelé et j'ai dit « présent ». Il m'a dit « qui es-tu ? » Et je lui ai dit « je suis un Amalécite ». Il m'a dit « reste près de moi, veux-tu, et donne-moi la mort, car je suis pris d'un malaise, bien que j'ai encore tout mon souffle. » Je suis donc resté près de lui, je lui ai donné la mort, car je savais qu'il ne survivrait pas à sa chute. J'ai pris le diadème qu'il avait sur la tête et le bracelet qu'il avait au bras. Je les ai apportés ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements et les déchira. Tous ses compagnons firent de même. Ils célébrèrent le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir pour Saül, pour son fils Jonathan, pour le peuple du Seigneur et pour la maison d'Israël qui était tombée par l'épée. David dit au jeune informateur, « D'où es-tu? » Il dit, « Je suis le fils d'un émigré amalécite. » David lui dit, « Comment ? Tu n'as pas craint d'étendre la main pour tuer le Messie du Seigneur? » David appela un des garçons et lui dit, « Avance et frappe-le. » Il l'abattit. David lui dit, « Que ton sang soit sur ta tête, car tu as déposé contre toi-même en disant, « C'est moi qui ai donné la mort au Messie du Seigneur. » Deuxième livre de Samuel, les chapitres 1, les versets 2 à 16. La bataille, c'est la même bataille que dans le premier texte, mais il y a plusieurs éléments qui sont très différent. En particulier, Saül ne se suicide pas de sa propre main. Il ne veut pas mourir ou être capturé par l'ennemi philistin. Il préfère être tué par un Amalécite, membre d'une tribu voisine d'Israël. On voit la réaction de David à la nouvelle du décès. Elle est double, sa réaction. D'abord, il va accomplir les gestes du deuil, pleurer, jeûner, déchirer ses vêtements pour souligner la mort du roi et surtout de son ami Jonathan. Ensuite, il va faire exécuter cet Amalécite qui a tué Saül. On comprend le deuil, mais l'exécution, ça nous semble un peu terrible, ou à tout le moins injustifiée. Le pauvre garçon n'a fait que répondre au désir du roi. Pourtant, son attitude contraste avec celle de l'écuyer dans le premier récit, qui, lui, craignait de tuer le roi. David va tuer l'Amalécite parce qu'il ne craint pas de tuer le roi, le Messie du Seigneur. D'ailleurs, le titre de Messie est appliqué ici au roi parce qu'il est le représentant de Dieu sur terre. Ce texte montre que David, bien qu'en compétition avec Saül, gardait un profond respect pour le roi, puisqu'il avait été choisi par le Seigneur pour régner sur son peuple. Rien ne permet de dire laquelle des deux traditions est plus authentique. Une chose est sûre, c'est que les deux ne peuvent pas être pris au pied de la lettre puisqu'ils se contredisent. D'ailleurs, c'est important de noter ça parce que ça nous permet de mieux comprendre la Bible et de voir que la lire demande une interprétation et que cette interprétation littérale pose souvent des difficultés. Puis on n'est pas obligé de répondre à ces difficultés en se disant tout simplement que la Bible transmet deux histoires qui sont différentes, deux histoires assez singulières sur la mort de Saül et en bout de ligne, rien ne permet d'affirmer l'historicité de l'une ou de l'autre de ces traditions. Les deux textes demeurent. Pourtant, comme ces textes font partie de la Bible, je suggère qu'on essaye de réfléchir à partir de ça sur notre façon chrétienne de voir le suicide. On va prendre quelques instants pour y penser et on va revenir. On écoute un peu de Bruckner qui nous... On va chanter « Locus Iste ». Vous êtes au cœur de l'émission « Les récits insolites de la Bible » avec Sébastien Daune. Aujourd'hui, on a lu deux textes qui parlaient de la mort de Saül, le premier roi d'Israël. On a vu qu'il y avait des différences importantes entre les deux récits, mais que dans les deux cas, Saül finit par mourir, soit qu'il s'enlève lui-même la vie ou qu'il demande à quelqu'un de lui enlever la vie. Ça sonne un peu bizarre pour nous, puisque d'habitude, on pense que la Bible va proclamer que la vie est sacrée et que le suicide est quelque chose de négatif. Pourquoi est-ce que la Bible raconte cette histoire de suicide du roi Saül et pourquoi est-ce que c'est pas vu de façon négative? Bien, pour moi, c'est bien la preuve que la Bible est loin d'être un livre édulcoré, où tout est beau dans le meilleur des mondes. Comme on le disait en début d'émission, la violence fait partie des récits bibliques parce qu'elle fait partie tout simplement des réactions humaines et de la vie qu'on a autour de nous. Ce passage-là n'indique pas que le suicide est jugé comme une faute. Bon, d'ailleurs, la Bible n'offre pas de directive claire sur la question du suicide en général. Jamais il va y avoir une affirmation claire qui va condamner ou non le suicide. Pourtant, dans notre réflexion, on peut être attentif au fait qu'il y a plusieurs textes bibliques, dont le début de la Genèse, qui affirment que la vie est un don de Dieu. Alors, il y a plusieurs personnes qui vont essayer de réfléchir au sens chrétien sur tout ça. Ils vont dire, ah, il y a ça. Il y a aussi le fait qu'il y a le commandement, bon, tu ne tueras pas. Et ils vont appliquer ça au suicide. Traditionnellement, l'Église catholique va enseigner que c'est un péché. Pourtant, aujourd'hui, ça a changé. Elle est consciente que ce geste est commis par des personnes en état de détresse qui n'ont pas nécessairement, puis entre guillemets, là, la pleine volonté de commettre le mal, qui est une des exigences pour commettre un péché grave. Donc, il y a quand même un bémol, c'est pas automatiquement un péché. Dans ma propre pratique, moi je suis animateur de pastoral au Collège Saint-Jean-Vianney, je travaille avec des élèves du secondaire et je reçois souvent des jeunes qui viennent à mon bureau parce qu'ils ne trouvent pas d'autres personnes à qui parler, ils viennent me voir et on discute et souvent, il y a beaucoup plus de personnes qu'on croit qui portent des idées suicidaires, qu'ils pensent au suicide ou qu'ils ont déjà passé dans leur passé à passer à cet acte-là. Et lorsqu'on en parle, quand ils en parlent, ils en parlent toujours comme d'un acte pour faire cesser leur souffrance. Ils ne trouvent pas de solution à leurs problèmes. Il y en a toutes sortes. Ils sont un peu mélangés dans tout ça. Et ils ne voient pas d'issue. Et dans cette situation-là, le suicide apparaît comme une façon d'arrêter d'avoir mal. Mon rôle là-dedans, c'est d'essayer de les orienter vers des professionnels de la santé capables de les aider. Puis ensemble, on tente de trouver des solutions pour leur redonner le goût de vivre. Depuis que je suis sensibilisé à cette souffrance-là, depuis que je les entends à mon bureau, j'hésite plus à aller vers ceux et celles qui semblent tristes ou découragés. Aimer son prochain, c'est pas seulement une belle citation de Jésus, hein, c'est une parole à mettre en action, particulièrement lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui se sent pas aimé, qui se sent seul, qui souffre. Alors maintenant, normalement, naturellement même, quand je vois quelqu'un qui pleure, qui se sent isolé, que je vois qu'il va pas bien, je vais lui poser la question, tu sais, comment ça va réellement? Puis quand je vois qu'il y a toutes sortes de problèmes, je lui pose carrément la question, as-tu déjà pensé au suicide? Et on essaye de travailler ensemble pour trouver des solutions. Alors, en espérant qu'il y en a d'autres aussi qui sont là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui souffrent et qui ont besoin d'aide pour passer à travers tout ça. C'est déjà la fin de cette émission. J'espère que vous avez apprécié cette étude des deux morts du roi Saül et la réflexion au sujet du suicide que ça nous a permis de faire. Si vous avez des questions, des commentaires, je vous encourage de me contacter. On prend toujours le temps de vous lire et on essaie de vous répondre. L'adresse courriel est auditoire@radiovm.com, auditoire@radiovm.com. Un petit mot pour dire merci à Antonin et à la technique, et merci à chacun d'entre vous pour votre intérêt et votre écoute. Si vous voulez aller plus loin, je vous suggère un livre, celui que j'ai écrit, « Mais d'où vient la femme de Caïn? Les récits insolites de la Bible » qu'on retrouve aux éditions Novalis et Mediapol. La semaine prochaine, bien, ça sera déjà la dernière émission de cette série, hein, « Toute bonne chose a une fin ». Pour l'occasion, on va faire une émission un peu différente. Au lieu de prendre un récit biblique comme tel, on va plutôt réfléchir au livre de l'Apocalypse et on va analyser différents symboles qui sont assez insolites. Alors, donc, c'est l'Apocalypse et ses nombreux symboles qui seront au programme la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite justement de passer une belle semaine. À bientôt!